Et être frappé de voir combien il y a eu des échanges féconds entre le Seigneur Jésus et Pierre, depuis le début de son appel jusqu'à son service ensuite. Peut-être on commencera dans l'évangile de Jean au chapitre 1er. Jean 1, verset 35, il s'agit de Jean le baptiseur. Le lendemain encore, Jean se tint là et deux de ses disciples, et regardant Jésus qui marchait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Et les deux disciples entendirent parler et suivirent Jésus. Et Jésus, se retournant, voyant qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous ?» Et lui dit, « Rabbi », ce qui, interprété, signifie « Maître », « Où demeures-tu ?» Il leur dit, « Venez, voyez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu parler de lui à Jean et qui l'avait suivi. Celui-ci trouve d'abord son propre frère, Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui est interprété est Christ. » Et il le mena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, le fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui est interprété est Pierre. » Que nous puissions toujours regarder Jésus marcher. Jean a pu dire en voyant le Seigneur Jésus marcher, « Voilà l'agneau de Dieu. » Quel titre que celui-là! Nous puissions apprendre à connaître à travers les Écritures, à travers les Évangiles, celui qui est l'agneau de Dieu. Et les deux disciples, simplement en entendant les paroles du Seigneur Jésus, le suivent. Ils sont attirés par ce qu'il disait, comment il parlait. Et on est toujours interpellé quand on écoute la voix du Seigneur Jésus, quand on entend sa voix dans les évangiles. Et le Seigneur ne les laisse pas seuls, il leur dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Que cherchez-vous? Il nous pose cette question à nous aussi. Qu'est-ce qu'on cherche dans notre vie? Lui dire, Rabbi, où demeures-tu? Il voulait avoir plus de contacts, plus de connaissances. Et le Seigneur, bien sûr, venez, voyez. Je me souviens, ce jour-là, de la 10e heure. Et on se souvient, quand on a rencontré le Seigneur Jésus, on se souvient, peut-être pas toujours, mais il est heureux de se souvenir du moment où on a eu cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus dans notre vie. Pour André et son compagnon, c'était à la 10e heure. Et puis André, c'était le frère de Simon-Pierre et il trouve son frère Simon en lui disant, nous avons trouvé le Messie, le Christ. Ça faisait très peu de temps qu'André avait rencontré le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu. Et déjà, il a à cœur de mener son frère à Jésus, que nous ayons à cœur cette annonce de l'Évangile. Et on voit, il est dit, il le mena à Jésus. Mener quelqu'un, les mener au Seigneur Jésus. Non pas à une doctrine, non pas à une religion, non pas à des théories, mais à une personne. Il le mena à Jésus. Et on voit tout au long de la fin de ce chapitre premier qu'il y a cette chaîne. On voit André, Jean, André, Simon, et puis Philippe, et puis Nathanaël. Il y a comme une chaîne qui se passe. On passe le message. Le message de l'Évangile. Que nous puissions avoir à cœur cela aussi. De faire connaître ce grand message du salut. Et là, on voit le regard du Seigneur Jésus qui se pose sur Pierre. À plusieurs reprises, il y aura le regard du Seigneur sur Pierre. Et là, il lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, oui, c'est ton nom, mais tu seras Céphas, Pierre. Déjà, il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui se produit. Le Seigneur change le nom, lui dit, tu seras appelé Céphas, Pierre, une pierre. On en reparlera plus tard. Et puis, il y a Philippe, il y a Nathanaël. Et là aussi, c'est viens et vois. C'est venez, voyez. Venez, voyez ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur dit de lui. Je ne veux pas être trop long, mais peut-être deux ou trois autres expériences et paroles rapportées dans les évangiles à propos de Simon-Pierre, peut-être en Luc au chapitre 5. Verset 2, Jésus vit deux nacelles qui étaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leur filet, et montant dans l'une des nacelles qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre. S'étant assis, il enseignait les foules de dessus la nacelle, et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Mène en pleine eau et lâchez vos filets pour la pêche. » Simon répondant lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je lâcherai le filet. » Ayant fait cela, ils enfermèrent une grande quantité de poissons. Verset 8. Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poissons qu'il venait de faire, de même que Jacques et Jean aussi, fils de Zébédée, qui étaient associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Ne crains pas. Dorénavant, tu prendras des hommes. » Ayant mené les nacelles à terre, ils quittèrent tout et le suivirent. Quelle rencontre que celle-là! Pierre et ses compagnons avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien trouvé. Mais le Seigneur dit, « Mène en pleine eau. Lâchez vos filets pour la pêche. » Simon rétorque un peu, mais on a travaillé toute la nuit. Sur le lac de Galilée, on pêche la nuit, pas le jour. Et on pêche près du bord du lac. Le Seigneur, c'est le jour. Et puis, mène en pleine eau, va loin. Pour un pêcheur comme Pierre, qui était un spécialiste de la pêche, c'était surprenant. Mais il dit sur ta parole. C'est-à-dire que la parole du Seigneur avait de l'importance pour lui. Même si ce que tu me dis de faire semble complètement bizarre, oui, je vais écouter ce que tu dis. Sur ta parole, je lâcherai le filet. Et Pierre et ceux qui sont avec lui voient ce miracle, cette quantité de poissons qui viennent. Et devant la grandeur du Seigneur Jésus, devant sa puissance, devant le Créateur qui tient tout dans sa main, Pierre est obligé de reconnaître. Il fallait qu'il fasse cette expérience. Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Prendre conscience devant le Seigneur, devant Dieu, de ce que l'on est vraiment par nature. Je suis un homme pécheur. Il faut que cette expérience soit faite par chacun. Un jour ou l'autre, Pierre a rencontré le Seigneur avec André. Le Seigneur lui a parlé. Là, Pierre est, on peut dire, abasourdi devant la grandeur du Seigneur. Mais il a cru sa parole. Il a vu ce miracle. Et il reconnaît, à la limite, retire-toi de moi, non, c'est trop pour moi, je ne peux pas, je suis un homme pécheur. Le Seigneur va-t-il le laisser là, dans cet état? Non. Il dit, le Seigneur parle à Simon. C'est lui qui fait le pas. Ne crains pas. Dorénavant, tu prendras des hommes. Quelle parole extraordinaire que celle du Seigneur, qui dit à son disciple qui était, se sentait complètement loin du Seigneur, pécheur. Il entend cette parole, ne crains pas. Et le Seigneur parle à son disciple. Ne crains pas, il parle aussi à nous ce soir. Peut-être quelqu'un a besoin d'entendre cette parole. Ne crains pas. Dorénavant, désormais, maintenant, tu prendras des hommes, c'est-à-dire que je t'utiliserai pour amener des âmes. Et dans le livre des Actes, on voit combien Pierre, dans sa prédication, a amené le jour de la Pentecôte 3000 âmes, et puis ensuite, au début des Actes, combien de personnes ont été touchées et amenées au Seigneur par la puissance de la prédication de Pierre, la puissance de l'Esprit. Il a dû se souvenir de ces paroles du Seigneur sur la nacelle. Dorénavant, tu prendras des hommes. Et alors, devant la grandeur de celui qui lui parlait ainsi, qui l'engageait à son service, qui l'engageait à le suivre, il quitte tout. Avec Jacques et Jean, il quitte tout pour suivre le Seigneur Jésus. On les verra tout au long des évangiles, les trois souvent ensemble, surtout Pierre et Jean, mais Pierre, Jacques et Jean, plusieurs reprises, le Seigneur les prend à part pour leur parler, comme là. Une autre expression dans l'évangile de, on revient à l'évangile de Jean au chapitre 6. Jean 6, au verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Verset 67. Jésus donc dit aux 12 disciples, et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous? Tu as les paroles de la vie de Dieu, de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. Quelle déclaration que celle de Pierre. Il connaissait à connaître les paroles du Seigneur Jésus. Il les avait entendues en Jean 1. Il a entendu parler aussi en Luc 5. Et là, à nouveau, celui qui, dont il est dit, les paroles que je vous dis sont esprit et sont vie. Il y a une puissance rattachée aux paroles même du Seigneur. Et il leur dit, voulez-vous vous en aller? Beaucoup étaient partis, avaient quitté, disant, on ne peut pas te suivre. trop difficile. Simon-Pierre dit, « Seigneur, auprès de qui ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et le Seigneur Jésus a toujours, aujourd'hui encore, les paroles de la vie éternelle. Quelle parole puissante, extraordinaire. Comme autrefois, Simon-Pierre a pu en faire l'expérience, aujourd'hui encore, il a les paroles de la vie éternelle pour nous faire du bien, pour nous encourager. Auprès de qui pouvons-nous aller, sinon auprès du Seigneur Jésus lui-même ? Évangile de Matthieu, chapitre 14. Nous connaissons cette scène. Verset 25, les disciples sont au milieu de la mer, avec les vagues qui étaient là. Verset 25, à la quatrième veille de la nuit, il s'en alla vers eux, marchant sur la mer. Les disciples ont peur et... Verset 27, Jésus leur parla aussitôt, disant, « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur. » Pierre lui répondant, dit, « Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre étant descendu de la nacelle, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, disant, « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt, Jésus, étendant la main, le prit. Et lui dit, « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Le Seigneur avait été sur la montagne, et puis les disciples étaient en danger sur cette mer agitée. Et à la quatrième de veille de la nuit, le Seigneur vient. Il attend, il y a le moment du Seigneur pour venir. Il nous laisse des fois nous débattre un petit peu dans les difficultés. Et puis, la quatrième veille de la nuit, quand le moment est venu, il vient. Les disciples ont peur. Mais Jésus aussitôt leur dit, « Ayez bon courage. » Quelle parole que celle du Seigneur, les paroles de la vie éternelle, celui qui avait dit à Pierre, « Ne crains pas. » Là, il vient leur dire, « Ayez bon courage, c'est moi. N'ayez pas peur. » On a besoin d'entendre ces paroles souvent aussi, dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, dans nos vies de rassemblement. « Ayez bon courage. » C'est moi, je suis là, n'ayez pas peur. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir sur les eaux. Et lui dit, viens. Pierre descend de la nacelle et marche sur les eaux pour aller à Jésus. C'est extraordinaire ça. Des fois, on critique facilement Pierre, n'est-ce pas ? Mais est-ce qu'on a la foi de cet homme ? Pourtant, Dieu, le Seigneur lui dit, homme de petite foi, mais il fallait y aller. Il fallait partir sur la mer. Il fallait descendre de la nacelle pour aller. Et Pierre a marché sur la mer. Quel miracle extraordinaire ! Est-ce qu'on a entendu déjà que quelqu'un marche sur la mer ? Le Seigneur, lui, marchait. Et Pierre, il a marché sur la mer. Le Seigneur lui avait dit, viens. Et il avait confiance dans les paroles du Seigneur. Il va marcher. Et puis, le vent était fort, il a eu peur, et il enfonce. Quand il quitte des yeux le Seigneur Jésus, c'est toujours cela, n'est-ce pas ? Regarder à Jésus. S'il avait laissé les yeux fixés sur Jésus, il ne serait pas... Il n'aurait pas enfoncé. Souvent, on regarde autour de nous, n'est-ce pas ? Et on enfonce. Mais le Seigneur ne laisse pas les siens enfoncer. Jésus étend la main et le prend. Il le fait souvent, n'est-ce pas ? Pour nous aussi. Il étend la main et il nous prend par la main. Quel amour que celui du Seigneur envers les siens, envers son disciple Pierre, et envers chacun de nous. Que nous puissions aussi entendre sa voix. Ayez bon courage, c'est moi. Et puis, allez vers lui toujours, en regardant à lui, fixant les yeux sur Jésus. La page suivante, Matthieu 16. Verset 16. Plusieurs, c'était à Césarée de Philippe. On voit verset 13. Césarée de Philippe, c'est tout au fond du pays d'Israël. En montant le lac de Galilée, les rives du Jourdain, on arrive à Césarée de Philippe, au pied de l'Hermon, là où le Jourdain prend sa source. C'est là aussi où il y avait des hôtels païens, romains. Et le Seigneur, il choisit cet endroit-là pour interroger ses disciples. Qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répond. Encore lui, c'est souvent lui qui répond. C'est souvent lui qui fait le pas vers le Seigneur. Il aimait son Seigneur. Il a dû apprendre beaucoup de choses, Pierre, comme nous aussi, on doit apprendre beaucoup de choses dans notre vie. Qui dites-vous que je suis ? Il pose la question. Le Seigneur pose la question à Pierre. Il pose la question aux disciples. C'est Pierre qui répond. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle déclaration extraordinaire que celle-là. Tout est dit dans ces mots. Tu es le Christ, le Messie. Le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, il avait tout compris, Pierre. Il avait tout compris, il apprendra dans sa vie, mais là, il avait compris l'essentiel. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que nous pouvons tous dire cela, n'est-ce pas ? Et le Seigneur fait une réponse encourageante, tu es bienheureux, Simon. Car c'est le Père qui t'a révélé cela. Qui je suis ? Les autres disaient toutes sortes de choses, n'est-ce pas ? Mais Pierre a donné la bonne réponse. Et alors, il va lui faire une révélation remarquable sur l'Assemblée, que c'est lui, le Seigneur Jésus, qui bâtirait son Assemblée. Alors, on peut juste dire une chose. Pierre, c'est Pétros. C'est Pierre. Alors que le roc dont il est question, le mot c'est Petra, c'est le rocher, c'est tout autre chose. Et le rocher c'est Christ. C'est sur lui que l'assemblée est bâtie. Et c'est lui qui bâtit son assemblée. Quelle révélation est donnée là aussi à Pierre dans cet entretien. Pas tout lire, mais peut-être Pierre a eu des rencontres encore avec le Seigneur sur la montagne de la Transfiguration. Quand il lui dit à Pierre d'aller prendre un poisson et de trouver le statère, prends-le pour moi et pour toi. Que d'enseignements dans les entretiens que le Seigneur a eu avec Pierre. Quand même, encore deux, trois autres expressions, je laisserai la place. Jean 13, verset 5, il se met à laver les pieds des disciples. Il vient donc, verset 6, à Simon-Pierre, celui-ci lui dit, Seigneur, me laves-tu toi les pieds ? Jésus répondit, il lui dit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras. Dans la suite, Pierre lui dit, tu me laveras jamais les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit, « Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds. » Là encore, on voit la rapidité de réponse de Pierre, et puis il se trompe. Mais le Seigneur l'enseigne et lui montre qu'il a besoin de ce lavage des pieds. Et il le fait. Quel amour que celui qui veut laver les pieds de ses disciples. Il a lavé les pieds de Pierre, il veut laver nos pieds aussi. Il le fait par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, on le voit dans l'Épître aux Éphésiens notamment. Encore une expression en Luc 22. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. » La suite, Pierre s'engage à suivre le Seigneur jusqu'au bout. Quelle présomption! Mais le Seigneur le prévient, comme il nous prévient aussi. Nous sommes capables de chute les uns les autres. Nous ne croyons pas supérieurs à quiconque, n'est-ce pas, comme Pierre. Mais qu'il est encourageant d'entendre cette parole, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » On est chacun des siens l'objet des prières du Seigneur Jésus pour nous. Moi, j'ai prié pour toi. Pourquoi ? Pour que ta foi ne soit pas défaillante. Et puis même, il lui dit, quand tu reviendras, il sait qu'il va tromper, qu'il va renier le Seigneur. Il le sait. Le Seigneur sait toute chose. Pierre, lui, il était sûr de lui. Et il lui dit, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Déjà, il y a cet encouragement qui est donné. Oui, tu vas manquer. Il va me renier trois fois. Et on le voit qu'il a fait, n'est-ce pas? La page suivante, on voit que le Seigneur a encouragé ses disciples à prier afin de ne pas entrer en tentation. Une nouvelle demande du Seigneur à Pierre. Et il s'est endormi. Il n'a pas pu veiller une heure. Et puis il va le renier. Juste cette expression du chapitre 22, du Luc 22, verset 62, verset 61, le Seigneur, se tournant, regarda Pierre. Et Pierre se rappelle de la parole du Seigneur. Il sort dehors, il pleure amèrement. Oui. Là, il y a aussi ce regard du Seigneur, ce regard qui avait été posé sur lui, comme on l'a vu en Jean 1, à nouveau là, il se pose sur lui, celui qui a manqué, celui qui a renié son maître. Quel regard que celui-là, déjà le travail commencé dans son âme, il sort dehors, il pleure. Judas, qui a trahi le Seigneur, a eu du remords, il s'est pendu. Pierre a reconnu sa faute et il a pu ensuite être renouvelé, restauré. Comme on le voit en Jean 21, et on termine là-dessus. Jean 21, verset 15. « Lors donc qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le font ceux-ci ?» Il va lui dire trois fois, m'aimes-tu? Et puis, plus que ne font ceux-ci, Pierre avait dit, si tous t'abandonneraient, moi j'irai jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et le Seigneur le sonde à trois reprises. Simon, m'aimes-tu? Simon est attristé à la troisième fois. Mais quelle est la parole que le Seigneur lui dit? Paix mes brebis. Dans le terme grec, il s'est paix mes agneaux, mes petites brebis, n'est-ce pas? Prends-en soin. Et l'apôtre Pierre, à la fin de sa deuxième épître, il peut dire « Paissez le troupeau de Dieu, mon première, je ne sais plus. Paissez le troupeau de Dieu. » Il avait appris cela. Il avait reçu cet encouragement, cette parole du Seigneur de paître ses brebis. Il l'a fait d'une manière remarquable. On le voit dans le livre des Actes et on le voit dans ces deux épîtres. Le Seigneur lui dit, au verset 19 à la fin, il lui dit « Suis-moi ». Il le répète une nouvelle fois au verset 23, « Toi, suis-moi ». Cette parole, le Seigneur l'a dit à chacun de nous. Il nous encourage à le suivre, lui, en fait. C'est lui qui est important. Le Seigneur, celui que Pierre avait reconnu comme le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'il avait appris à connaître dans la tempête, qu'il avait appris à connaître sur le lac, qu'il avait reconnu dans sa puissance, dans sa bonté, dans son amour, celui qui avait pris soin de lui et qui l'avait restauré. Comme chacun de nous, nous avons besoin d'être aussi encouragés, repris, parfois, mais aussi être encouragés à le suivre. Ce qu'il a dit à Pierre, il le dit à chacun, toi. Personnellement, c'est un appel individuel. Toi, suis-moi.
Cet exemple de Pierre nous impressionne tous, hein, n'est-ce pas? Est-ce que nous ne voyons pas dans cette personne ce disciple qui voulait suivre le Seigneur, mais qui était parfois empêché par sa nature? Est-ce que nous ne voyons pas que notre nature nous ressemble? D'une part, nous voulons bien l'aimer, mais d'autre part, nous avons peut-être trop de confiance en nous-mêmes. Nous croyons que nous pouvons faire quelque chose sans lui. Et alors il doit nous mettre à l'écart, il doit parler à nous, il doit parler à nos cœurs. Et nous avons vu, si on lit Luc 5, on pense que de se reconnaître comme un homme pécheur, que c'est peut-être ça sa conversion. Mais non. Nous voyons dans Jean 1 que le Seigneur lui avait déjà donné son nouveau nom. Tu seras Céphas, Pierre. Alors là, il avait déjà reconnu comme André lui avait emmené vers le Seigneur Jésus. Il avait déjà reconnu comme le Messie. Nous avons vu le Messie. Et ça l'avait déjà impressionné. Il avait reconnu comme celui qui était le Messie, celui qui était venu du ciel. Mais de le reconnaître comme fils de Dieu, ça c'était un peu plus tard, nous l'avons vu. Mais avant, et on voit aussi que déjà avant Luc 5, que le Seigneur était rentré dans la maison de Simon, où il y avait la belle-mère de Simon qui était malade de la fièvre. Alors, il avait guéri dans cette maison. Il avait vu tous ces miracles. Hein. Il avait reconnu comme le Messie. Mais après, il ne s'était pas encore reconnu lui-même, vraiment. Il fallait que le Seigneur le mette à part. Et on le voit, il y a toute cette foule. Il parlait à cette foule en Luc 5. Mais il y avait deux bateaux là-bas. Mais le Seigneur a choisi celle de Pierre. Alors, ils étaient occupés toute la nuit, mais ils n'avaient rien pêché. Rien, rien. Il avait son occupation, il était certainement un bon pêcheur. Mais il n'avait rien péché. Alors nous, peut-être nous nous perdons aussi dans nos occupations habituelles et nous voyons, c'est pour rien. Après, ils étaient maintenant là au bord de lac, en lavant ses filets. Alors, il n'avait rien péché, mais il y avait de la saleté, il y avait dans ses filets. Il fallait les nettoyer. Et maintenant, le Seigneur, après avoir vu qu'il n'y avait rien, le Seigneur le met à part. Il choisit juste celui-là, de Pierre. Chapitre 5, verset 2, il vit deux nacelles qui étaient au bord du lac. Or, les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Et montant dans l'une des nacelles qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre, et c'était ainsi d'enseigner les foules de dessus de la nacelle. Alors maintenant, Pierre, il était occupé toute la nuit, il était occupé de laver le filet, mais maintenant le Seigneur le prend. Je veux ta nacelle, je veux que tu me mettes à côté, et maintenant je parle à la foule. Mais en réalité, il voulait parler aussi à Pierre. Et comment il parlait à Pierre? Il lui montrait que lui était puissant, le tout-puissant. Lui, le créateur, comme Marc venait de le dire, le créateur de tout. Et que c'était lui qui savait où étaient les poissons. Et pour lui montrer que lui seul pouvait donner du succès, donner un fruit du travail. C'est comme ça, en obéissant à lui. Et ça le met... En voyant cela, ce résultat, il se reconnaît comme quelqu'un qui ne pouvait rien faire de lui-même, qui lui-même était pécheur. Est-ce que nous avons vraiment reconnu que nous sommes les pécheurs? Nous avons peut-être vite reconnu que nous avons péché, mais que nous sommes des pécheurs. Il n'y a rien en nous qui est bien pour le Seigneur. Il n'y a rien. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Et ça, c'était... C'était le grand point de départ pour être le disciple du Seigneur. Après, s'étant reconnu comme quelqu'un qui ne pouvait rien faire, qui était nu devant le Seigneur, là, il pouvait l'utiliser. C'était là qu'il était prêt à quitter tout et pour le suivre. C'était ça. Est-ce que nous avons vraiment reconnu que nous ne pouvons rien faire sur lui? Là, nous sommes. Le Seigneur peut nous utiliser si nous avons reconnu que nous ne pouvons rien faire sans lui. Et là, nous pouvons être prêts de tout quitter et le suivre. Et c'est ça ce qu'il voulait. Et Marc l'avait rappelé, à la fin, après que le Seigneur a quitté la terre, il avait encore donné une leçon, encore une fois, une leçon privée. Encore une fois, au bord du lac, c'était une autre fois qu'il avait encore une fois travaillé toute la nuit et rien péché. Et encore une fois, le Seigneur leur montre que c'est lui, celui qui est puissant, et c'était lui le Créateur, et tout était en ses mains. Mais là, encore une fois, il leur rappelle, suis-moi. Mais après... Entre-temps, il y avait plusieurs épisodes, nous l'avons vu. Il y avait sa grande chute. Là, il avait de nouveau eu trop de confiance en lui-même. Il était prêt, il avait dit, je suis prêt avec toi, de mourir pour toi. Si tous te quittent, moi, je ne quitterai jamais. Et c'était lui. Tous l'avaient quitté, oui. Lui, il avait suivi du loin, mais il s'était mis dans une mauvaise compagnie, il s'était mis au bord avec ses soldats, ceux qui avaient cherché le Seigneur pour le prendre, pour le mener à mort. Et là, il s'est assis avec eux. Et là, il avait remué. Tout d'un coup, il a vu, c'est dangereux si je dis que je suis avec lui. Avant, il voulait le suivre, il voulait tout quitter. Mais en réalité, il devenait faible devant cette servante qui disait, toi, tu étais avec lui. Il s'est injuré lui-même. Mais le Seigneur lui avait déjà dit qu'il allait le faire. Et il y avait donc ça, ce que le Seigneur lui avait dit aussi, dans Luc 22. Je crois que ça, c'était une parole qu'il n'avait jamais oubliée. Une parole qui peut aussi nous donner de consolation et de la force. Le Seigneur lui dit, Luc 22, verset 31. Simon, Simon, voici Satan a demandé de vous avoir pour vous cribler comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand une fois tu te seras revenu, fortifie tes frères. Moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Pendant ces 3 jours que le Seigneur était mort, c'était certainement ses paroles qui l'ont maintenu. Sinon, s'il n'aurait pas eu cette nouvelle vie en lui, s'il n'aurait pas su que le Seigneur avait prié pour lui, il aurait peut-être fini comme Judas. Mais ça, le Seigneur avait prié pour lui. Et la foi, que la foi ne défaillait pas. Et il lui avait donné même de l'espoir qu'après sa chute, il y aurait encore un futur pour lui. Le Seigneur pouvait encore l'utiliser dans le service pour lui. Mais il fallait revenir. Une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. Si nous avons fait une chute, et une si grande chute comme Pierre l'avait fait, mais le Seigneur a prié pour lui. D'ailleurs, il appelle 2 fois avec son nom d'origine, son nom Simon, Simon, il n'appelle pas avec son nom Pierre, il appelle de son nom de naissance. Il lui avait donné un autre nom avant. Mais ici, quand il lui parle de sa chute, il lui montre que ça vient de sa vieille nature, soi-disant, que ça venait de... Il croyait en sa propre force, et c'est pourquoi il fallait prier pour ce Simon. Et c'est pourquoi il le dit même 2 fois ce nom, Simon, Simon. Alors, mais il avait prié pour lui. Et maintenant, il lui montre qu'il va revenir. Et on voit qu'il est revenu. Mais là aussi, il revenait d'une manière un peu spéciale. Comme il était un peu le leader de ses, qui venait toujours à l'avant de ses frères, il dit, voilà, je vais aller pêcher. Simon, dans Jean 21, il dit, dans le verset 3, « Je m'en vais pêcher. » Ils lui disent, « Nous allons aussi avec toi. » Le Seigneur les avait appelés de venir à la montagne de Galilée, et où ils se trouvent, ils se trouvent en bas, là où il y a le lac de Galilée. Au lieu d'être sur la montagne, ils se trouvent sur le lac, et là où il était avant, où il avait son occupation, sa profession avant. Il croyait maintenant, j'ai renié le Seigneur, il ne me reste plus à rien faire, à reprendre mon vieux travail. Mais non, le Seigneur lui avait dit, quand tu seras revenu, tu fortifieras tes frères. Mais qu'est-ce qu'il fait comme exemple pour ses frères? Je vais aller pêcher et ses frères lui suivent. Alors, si je ne me rappelle pas bien de ce que le Seigneur m'a dit et je fais quelque chose de différent, je suis un mauvais exemple pour mes frères. Et mes frères me suivent. Au lieu d'aller là où le Seigneur a dit d'aller sur la montagne, je vais là et faire mon travail et mes frères me suivent. Ils font le mauvais travail avec, il n'y a rien. Ils ne pêchent rien comme en Luc 5. Le même résultat. Et encore une fois, le Seigneur doit leur montrer que c'est lui-là. Alors il est là. Il est au bord, il les voit. Comme il les a vus aussi quand ils étaient sur le lac et ils ramaient à fond et ils n'avançaient pas. Il les a vus. Et ici, il les voit. Enfants, avez-vous quelque chose à manger? Ils disent non. Non, ils n'ont rien pêché. Ils n'avaient rien à manger. Mais le Seigneur, il avait quelque chose. Il avait déjà préparé la force pour leur donner de la force. Il avait préparé tout. Et c'est là, quand il les a mis au feu, qu'il leur a donné à manger, il a fortifié leur corps, il parle encore à Simon-Pierre. Il lui parle, comme Marc venait de le rappeler, il lui parle, m'aimes-tu? D'abord, m'aimes-tu plus que les autres? Puis, à la fin, m'aimes-tu? Il y a cette expression de un peu d'amour. Est-ce qu'il y a encore un peu d'amour dans ton cœur pour moi? C'est ça la troisième question que je lui pose. Et là, Simon, il s'attriste encore, il ouvre tout son cœur. Tu connais tout, tu sais tout, tu vois que je t'aime. Alors, encore une fois, il est devant le Seigneur, ouvert. Et le Seigneur, il voit qu'il aime. Et là, Simon-Pierre l'a renié publiquement et maintenant le Seigneur le fait revenir publiquement. Il le remet dans cette position pour paître le troupeau, pour paître les brebis et tout cela. Et comme il a fait. Ça a été mentionné comme il a fait. Nous le voyons dans ces deux épîtres. Paisser le troupeau. Et nous le voyons aussi en Actes. Il avait de nouveau ce courage être un témoignage pour le Seigneur. Là, il craignait plus de la mort. On le voit comment il a été un témoignage pour le Seigneur. Et à la fin de sa course, ce qu'il avait tellement impressionné, nous le voyons dans sa épître. Nous l'avons vu. Marc ne l'avait pas mentionné, il avait seulement mentionné très court cet épisode sur la montagne. Là, quand il a vu le Seigneur dans sa gloire, son visage comme le soleil, ses vêtements blancs comme la neige, il a vu le Seigneur dans cette gloire. Là, il avait fait encore une faute. Il avait comparé, il avait plus ou moins mis sur le même niveau comme Élie et Moïse. Il voulait faire une application pour tous. Il voulait les garder dans cette situation, il voulait être avec. Mais Dieu, il fallait leur montrer que son fils était le plus grand du tout. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et après, il ne voit que Jésus seul. Et cette impression de voir Jésus seul l'avait gardé jusqu'à la fin de sa vie. Et il le rappelle encore dans cette épître, première épître, quand nous étions sur la montagne. Luc 1, verset 17. Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Et nous entendîmes cette voix venue du ciel étant avec lui sur la sainte montagne. Et nous entendîmes cette voix venue du ciel. Alors, cette impression d'avoir vu le Seigneur dans cette gloire sur la montagne et d'entendre cette voix du Père venant du ciel, celui-ci est mon fils, bien-aimé, j'ai trouvé mon plaisir. Ça l'a impressionné pour tout le reste de la vie. Est-ce que le Seigneur nous a impressionnés? Est-ce que nous voyons le Seigneur, comme il a été dit, marcher sur cette terre? Est-ce que nous le voyons aussi élevé dans le ciel, hein, le Seigneur glorifié dans le ciel? Et est-ce que nous le voyons que c'est celui que le Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en lequel j'ai trouvé mon plaisir? Est-ce que nous le voyons comme tel? Est-ce que nous nous rappelons que c'est lui qui veut nous avoir dans cette gloire? Père, je veux que tu m'as donné, qu'il soit avec moi et qu'il voit ma gloire. Maintenant, nous pouvons déjà le voir là-haut, mais un jour, nous le verrons avec nos yeux glorifiés dans le ciel. Mais déjà maintenant, nous voulons le suivre, nous voulons le voir bientôt dans le ciel.